Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 47, Daf Mem Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Kablan, le garant total, c'est-à-dire dans le cas où pour appuyer le fait qu'il s'est porté garant, le garant a lui-même pris l'argent du prêteur pour le transmettre à l'emprunteur. Cependant, à ce moment-là, il a précisé qu'il se portait uniquement garant. Alors dans ce cas, comme l'explique le Toumim dans Siman Lamed Zayin Sifkatan Vav, ce garant est considéré aussi partiellement débiteur. Par conséquent, le créancier peut aller directement chez le garant pour lui réclamer le remboursement de la dette. Alors la question se pose, est-ce que ce garant total peut témoigner en faveur du débiteur lorsqu'une troisième personne vient revendiquer un terrain qu'il possède? Alors l'Agmara dit là-dessus, Amrela Meïd, il y a une version qui dit que ce garant peut témoigner en faveur du débiteur, Vamrela Enomeïd, il y a une deuxième version qui dit que ce garant ne peut pas témoigner en faveur du débiteur. Alors l'Agmara précise, Amrela Meïd, il y a une version qui dit que ce garant peut témoigner en faveur du débiteur, parce que Kearev Dami, ce garant ressemble au garant normal. Par conséquent, si le débiteur possède un autre terrain, ce garant peut témoigner en sa faveur. Parce que de deux choses d'une, soit le créancier saisira le terrain que possède le débiteur, et même si le créancier saisit le terrain appartenant au garant, ce garant pourra toujours retourner chez le débiteur pour saisir le terrain qui lui reste. Alors finalement, il n'a aucun intérêt dans cette affaire, et son témoignage sera donc accepté. Vamrela, il y a une deuxième version qui dit, Enomeïd, que ce garant ne peut pas témoigner en faveur du débiteur. Et cela parce que parce que nous estimons que ce garant est intéressé à ce que ces deux terrains soient entre les mains du débiteur, parce que lorsque le créancier viendra réclamer le remboursement de sa dette, il pourra prendre ce qu'il voudra. C'est-à-dire, dans le cas de ce garant total, où le créancier peut directement aller chez lui réclamer le remboursement de la dette, le garant a tout intérêt à ce que le débiteur possède beaucoup de terrain, ce qui lui permettra de convaincre le créancier de réclamer le remboursement de la dette chez le débiteur. Nous préciserons d'ailleurs qu'il s'agit ici d'un cas où le débiteur possède deux types de terrain. Il possède un terrain médiocre et un terrain moyen. En général, le créancier peut réclamer le terrain moyen. Maintenant, il s'agit d'un cas où la troisième personne revendique le terrain moyen. Alors, nous pouvons comprendre que ce garant total a intérêt à ce que ce débiteur garde ce terrain moyen, parce que s'il ne possède qu'un terrain médiocre, le créancier risque de se retourner vers lui pour saisir le terrain moyen qu'il possède. Parce que comme nous l'avons expliqué, il s'agit d'un cas où le créancier peut aller directement chez le garant pour réclamer le remboursement de sa dette. Mais lorsqu'il s'agit d'un garant normal, le créancier ne peut pas lui réclamer le remboursement de la dette tant que le débiteur possède des terrains. C'est pour cela donc que selon cette version, le garant normal peut témoigner en faveur du débiteur, mais le garant total ne pourra pas témoigner en faveur du débiteur. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Daf Mem Vav. Nous commençons le shiur de Baba Batra Daf Mem Zayin à la quatrième ligne du haut de la page. Amar Rabbi Yochanan, Uman en lo chazaka. Nous avons vu dans la Mishnah que l'artisan ne peut pas prétendre au droit de propriété. Par conséquent, comme nous l'avons conclu plus haut Daf Mem Vav Amud Alef, si une personne reconnaît son objet chez l'artisan, il pourra le réclamer parce que nous estimons qu'il le lui a donné à réparer. Cependant, Rabbi Yochanan ajoute, Ben Uman Yesh Lo Chazaka, le fils de l'artisan, qui lui-même n'est pas artisan, pourra prétendre au droit de propriété sur les objets qu'il détient. L'Agmara expliquera. Aussi, nous avons vu dans la Mishnah que Aris En Lo Chazaka, le métayer ne peut pas prétendre au droit de propriété, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un métayer de famille dont l'accord a été conclu pour une durée indéterminée. Il se peut donc que le propriétaire laisse le métayer prendre pour lui tous les produits d'un champ plusieurs années consécutives pour qu'ensuite le propriétaire lui-même prenne les fruits produits par cette terre pendant plusieurs années consécutives. C'est pour cela donc, comme nous l'avons expliqué plus haut, il ne pourra pas prétendre au droit de propriété. Cependant, Ben Aris Yesh Lo Chazaka, le fils du métayer qui lui n'est pas métayer, pourra prétendre au droit de propriété s'il occupe un terrain pendant 3 ans. Cependant, Gazlan ou Ben Gazlan, soit le voleur, soit le fils du voleur, en la en chazaka, ils ne pourront pas prétendre au droit de propriété. Cependant, ben beno shel gazlan, le petit-fils du voleur, pourra prétendre au droit de propriété. La Gemara expliquera. La Gemara demande, Hechidami, comment se présente ce cas où nous faisons la différence entre le fils de l'artisan ou du métayer et le fils du voleur? Or, nous lisons selon le Bach, I deatu betanta de avuhon. S'il s'agit d'un cas où le fils de l'artisan ou du métayer ou du voleur présente l'argument que respectivement l'objet ou le terrain leur provient de leur père, donc ils l'ont hérité de leur père, même le fils de l'artisan ou du métayer ne devrait pas pouvoir prétendre au droit de propriété, de la même manière que leur père ne le pouvait pas. Si le fils de cet artisan ou de ce métayer ou de ce voleur ne présente pas l'argument que cet objet ou ce terrain leur provient de leur père, mais qu'ils l'ont eux-mêmes acheté, même le fils du voleur devrait pouvoir prétendre au droit de propriété, parce que si son père était voleur, lui n'est pas voleur. Donc s'il dit qu'il a acheté lui-même ce terrain, on devrait le croire. Agma répond, l'autricha, Rabbi Yochanan n'a eu besoin de nous enseigner cela, et donc de faire cette différence entre le fils de l'artisan et du métayer, et le fils du voleur, uniquement dans le cas des Kamre Edim, où des témoins disent, Befanenu Hodalo, devant nous, l'ancien propriétaire a avoué qu'il a vendu ce terrain au métayer ou au voleur, ou bien qu'il a vendu l'objet à l'artisan. Et les enfants disent qu'ils ont hérité l'objet ou le terrain de leur père. Alors, Hanar, concernant l'artisan ou le métayer, Ikal Memar Kushta Kamre, nous pouvons dire que c'est vrai ce que disent leurs enfants, que l'ancien propriétaire a vendu l'objet ou le terrain à leur père, parce qu'il n'y a aucune raison de dire qu'il s'agissait d'un aveu forcé. Par conséquent, ils pourront prétendre au droit de propriété. Hai, celui-ci, c'est-à-dire concernant le voleur, Afalgav de Odenami, même si l'ancien propriétaire lui a avoué devant des témoins qu'il lui a vendu ce terrain, l'Omeheman, on ne croira pas l'argument du fils du voleur lorsqu'il dit que son père a acheté ce terrain et qu'il le lui a laissé en héritage. D'ailleurs, comme le précise de Limouké Yosef, la Gemara a choisi ce cas où l'aveu s'est passé devant des témoins pour insister sur le fait que même dans ce cas, le fils du voleur ne pourra pas prétendre au droit de propriété. Et cela, qu'est de Rav Kahana, comme l'a enseigné Rav Kahana, d'Ama Rav Kahana, parce que Rav Kahana a dit, à propos d'un cas similaire, il a de Odele, si l'ancien propriétaire n'avait pas avoué au voleur qu'il lui a vendu ce terrain, Hava Mamtele, ou le Chamre, le Shachvar. Il l'aurait amené, lui et son âne, aux autorités. Autrement dit, nous sommes persuadés que l'aveu du propriétaire a été fait sous contrainte, parce qu'il avait peur que le voleur ne lui fasse encore plus de mal. Finalement donc, nous ne croyons pas que le propriétaire lui a réellement vendu ce terrain, par conséquent, son fils ne pourra pas prétendre au droit de propriété. Toutefois, le petit-fils du voleur pourra prétendre au droit de propriété, s'il dit qu'il a hérité ce terrain de son père. Et cela, du fait que le père lui-même, donc qui était le fils du voleur, aurait pu présenter l'argument comme quoi il l'a acheté lui-même de l'ancien propriétaire, alors le tribunal présentera cet argument à la place de son fils. Amar Rabba, nous lisons ici selon le Rashbam, Tamim Shafilu Beno Shel Gazlan Yeshlo Chazaka. Il y a des fois des situations où le fils du voleur pourra prétendre au droit de propriété, même s'il dit qu'il a hérité ce terrain. Echidami, comment ce cas se présente? Que Gondekate Betanta de Abba de Avoa. Lorsqu'il présente l'argument qu'il a hérité ce terrain de son grand-père. C'est-à-dire, son père a hérité ce terrain de son grand-père et lui l'a hérité de son père. Dans ce cas, puisque le grand-père n'était pas voleur, le petit-fils pourra prétendre au droit de propriété comme n'importe quel héritier. En effet, comme nous l'avons vu plus haut d'Af Mem Alef Amud Bet, c'est le tribunal qui présente l'argument à la place de l'héritier, comme quoi c'est dans ce cas par exemple le grand-père qui l'a acheté. Et cela, bien que ce terrain ait passé entre les mains du voleur. Et d'autre part, il n'y a pas lieu de soupçonner que le petit-fils ment, et en fait il l'a hérité de son père le voleur, mais il n'a jamais été chez son grand-père, parce que s'il mentait vraiment, il aurait pu dire un plus grand mensonge en disant qu'il l'a acheté directement chez le revendicateur. Il y a aussi une deuxième version de ce passage enseigné par Rava, qui est d'ailleurs celle que nous avons dans notre Gemara, selon laquelle Rava dit qu'il y a des situations où même le petit-fils du voleur ne peut pas prétendre au droit de propriété. C'est dans le cas où il dit qu'il sait clairement que ce terrain lui vient de son grand-père. Alors, puisque son grand-père était voleur, Il ne pourra pas prétendre au droit de propriété de la même manière que son grand-père aussi ne pouvait pas prétendre au droit de propriété. Au point de vue de la halakha, ces deux versions sont justes. Alors la Gemara demande, Hechidami Gazlan, comment se présente le cas d'un voleur qui ne peut pas prétendre au droit de propriété? La Gemara répond à Marabi Yochanan, Kugon Shurzak al Sadezu Begazlanuta. C'est par exemple dans le cas où nous savons clairement que cette personne s'est appropriée de ce champ en le volant. Dans ce cas, il ne pourra pas prétendre au droit de propriété, même s'il dit qu'il l'a acheté par la suite. Il pourra cependant prétendre au droit de propriété sur un autre champ, si on ne sait pas s'il l'a volé ou non. Parce que même s'il a volé une fois, il n'y a pas de raison de dire qu'il a volé une seconde fois. Rav Chisda Amar, Rav Chisda dit que Gon de Bet Ploni, par exemple, un des membres de la famille Intel, qui était connu à l'époque, Shorgim Nefashot Aliske Mamon, que nous savons prêt à tuer pour une question d'argent. Alors les membres de cette famille ne pourront pas prétendre au droit de propriété sur aucun terrain, même si nous ne savons pas s'ils l'ont volé ou non. Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta. Uman en lo chazaka, l'artisan ne peut pas prétendre au droit de propriété sur les objets qu'il possède, pour les raisons que nous avons expliquées plus haut. Yarad me umanuto, yesh lo chazaka. Mais s'il a quitté son métier, il pourra prétendre au droit de propriété sur les objets qu'il détient. Aris en lo chazaka, le métayer ne peut pas prétendre au droit de propriété, comme nous l'avons expliqué plus haut. Yarad me arisuto, mais s'il a quitté le métier de métayer, yesh lo chazaka, il pourra prétendre au droit de propriété. Nous avons vu dans la Mishnah plus haut d'Afmem Bet que le fils ne peut pas prétendre au droit de propriété s'il occupe les terrains de son père. Nous pouvons déduire de cette braïta, comme nous le verrons, que c'est uniquement dans le cas où ce fils est nourri par son père. Parce que souvent, dans ce cas, le fils est comme l'intendant des biens de son père. Il arrive donc que le père laisse le fils prendre pour lui tous les produits d'un terrain sans protester. Nous avons vu aussi dans la Mishnah que la femme ne peut pas prétendre au droit de propriété sur les biens de son mari, et cela parce que le mari a l'obligation de la nourrir. Il arrive donc qu'il lui laisse prendre pour elle tous les produits d'un terrain en guise de nourriture. Alors la braïta dit, Ben Shechalak, un fils qui a quitté la table de son père, Veisha Shenitgarsha, et une femme qui a été divorcée, Haren Kesha Koladam, il ressemble à tout homme, c'est-à-dire dans ce cas le fils pourra prétendre au droit de propriété sur un terrain appartenant à son père s'il continue à l'occuper, et une femme pourra aussi prétendre au droit de propriété sur un terrain qui a appartenu à son mari. Alors la Gemara demande, Bishlama ben Shechalak, on comprend bien encore que la Braïta ait besoin de nous enseigner que lorsque le fils a quitté son père, il peut quand même prétendre au droit de propriété. Itztarich, la Braïta a donc besoin de nous le dire, Salkadat Achamina, parce que sinon, j'aurais pu penser, Achule Achil Gabe, que même après que le fils a quitté la table de son père, il arrive que le père lui cède quand même le droit de prendre les fruits d'un terrain. Kamash Malan de l'eau, c'est pour cela que la Braïta nous enseigne que non, c'est-à-dire que le père ne laisse plus le fils prendre pour lui les fruits d'un terrain une fois qu'il a quitté sa table. Par conséquent, le fils pourra prétendre au droit de propriété. Et là, Isha Shenit Garsha, mais le cas de la femme qui a été divorcée, Pshita, c'est évident. C'est-à-dire, puisqu'ils se haïssent, il est évident que le mari ne laissera pas la femme prendre pour elle les produits d'un terrain. Donc finalement, si elle continue à l'occuper, il est évident que le mari le lui a vendu. L'agma répond, l'otzricha, la braïta n'a eu besoin de nous enseigner ce cas uniquement.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Memzayin Amoud Bet pour le cas d'une femme, Bem Goreshet, Venam Goreshet, qui est divorcée et qui n'est pas divorcée. C'est-à-dire une femme à propos de laquelle il y a un doute si le divorce a eu lieu ou non. Par exemple, dans le cas où le mari lui a lancé un acte de divorce, et nous sommes en doute si cet acte de divorce est tombé proche de la femme ou proche du mari. Dans ce cas, elle devra recevoir un nouvel acte de divorce. Ou que des Rabbi Zera, et comme l'a enseigné Rabbi Zera, de Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yirmiya Bar Abba, Amar Shmuel, Kol Makom Shamru Chachamim Megureshet Venam Megureshet, partout où les Chachamim ont dit que la femme est divorcée mais pas divorcée, parce que nous sommes en doute si le divorce a eu lieu ou non, Baala Chayav Bimzonotea, le mari a toujours l'obligation de la nourrir. Alors on aurait pu croire que puisque de toute façon il a l'obligation de la nourrir, il arrive qu'il lui laisse prendre les produits d'un terrain en guise de nourriture. C'est pour cela que la Braïta nous enseigne que dans ce cas, la femme pourra prétendre au droit de propriété si elle continue à occuper le terrain. Et cela parce que nous estimons que puisqu'ils se haïssent, bien que le mari a toujours l'obligation de la nourrir, il ne le fera qu'à des difficultés et non pas généreusement. Donc il est évident qu'il lui retirera ce terrain et il lui donnera une pension alimentaire uniquement lorsqu'il sera contraint de le faire. Par conséquent, si cette femme continue à occuper ce terrain, elle pourra prétendre au droit de propriété. Amar Rav Nachman, Amar Lehuna, Kulan Shevi Uraya, tous ceux énumérés par la Mishnah qui ne peuvent pas prétendre au droit de propriété, par exemple l'artisan ou le métayer, s'ils amènent une preuve qu'ils ont acheté l'objet ou le terrain, par exemple en présentant un acte de vente, Rayatan Raya, leur preuve est une bonne preuve, elle sera acceptée. Umamidin Sadeh Beyadan, on leur accordera ce terrain lorsqu'il s'agit d'un métayer, ou bien l'objet s'il s'agit d'un artisan. Par contre, Gazlan Shevi Raya, le voleur d'un terrain qui a emmené une preuve qu'il a acheté ce terrain, par exemple en présentant un acte de vente, En Rayato Raya, cette preuve n'est pas une preuve, parce que nous estimons que de la même manière qu'il a volé ce terrain, il a aussi contraint le propriétaire à lui écrire un acte de vente. Par conséquent, Ven Mamidin Sadebiado, et on ne lui accordera pas ce terrain, à moins qu'il amène des témoins qui ont vu qu'il a payé de l'argent pour acheter ce champ. Et cela, comme nous le verrons dans le daf suivant.
La Gemara demande, Maïka Mashmanan, quel est le chidouche que nous a enseigné Rav Nachman au nom de Ravuna? Tanina, voici que cela a été enseigné clairement dans une Mishnah. En effet, la Mishnah dans Gittin Dafnun Heamudbet parle de brigand Goy qui, lorsqu'il menaçait un Israël, celui-ci, pour sauver sa vie, lui cédait un terrain. Alors la Mishnah dit là-dessus, la Kach Misikrikon, si une personne a acheté un terrain d'un brigand, Bechazar Velakach Mibalabait, puis il l'a acheté à nouveau du propriétaire légitime, Mikrobatel, son acquisition est nulle. Alors la Gemara comprend ici qu'il ne s'agit pas d'un cas où cet acheteur a réellement acheté ce terrain du propriétaire légitime, mais il prouve qu'il l'a acheté en présentant un acte de vente que lui a écrit l'ancien propriétaire. Alors finalement, nous voyons dans cette Mishnah que même la preuve amenée par l'acheteur du voleur que le propriétaire lui a vendu ce terrain n'est pas valable, alors que nous pourrions penser que le propriétaire n'a rien à craindre de l'acheteur de ce voleur. Il est donc évident que la preuve amenée par le voleur qu'il a acheté ce terrain du propriétaire ne sera pas acceptée. Donc finalement, quel est le chidouche de Rav Nachman? Lagmar répond, Léa Fouquet Mide Rav. Rav Nachman nous a enseigné cela pour contrer l'opinion de Rav. D'Amar Rav, parce que Rav a dit sur cette Mishnah, Lochanou, nous ne disons cela que lorsque l'acheteur du voleur a acheté à nouveau le terrain du propriétaire, que cette acquisition n'est pas valable. Et là, d'Amar le Chazekoukni, c'est uniquement dans le cas où le propriétaire ne lui a pas réellement vendu le terrain, mais il lui a dit, devant deux témoins, va prendre possession de ce terrain et acquiert-le. Aval Bechtar, mais si le propriétaire lui a écrit un acte de vente, Kana, dans ce cas, l'acheteur a acquis le terrain. Parce que par cet acte de vente, le propriétaire montre qu'il a cédé ce terrain volontairement. Kamash Ma'alan, Kedeshmuel. C'est pour cela que Rav Nachman nous enseigne au nom de Ravuna que la halakha est comme Shmuel Dehamar qui dit Av Bechtar Nami Lokana. Même si le propriétaire a écrit un acte de vente à cet acheteur du voleur, quand même, il n'a pas acquis ce terrain. Et cela parce que nous estimons qu'il a écrit cet acte de vente par peur de ce voleur. Achirtov Achayut Mechassim, jusqu'à ce qu'il écrive dans cet acte de vente une clause où il garantit cette vente en s'engageant au remboursement en cas de saisie. Et cela parce que nous sommes persuadés que le propriétaire n'aurait pas pris cet engagement s'il n'a pas réellement vendu le terrain uniquement par crainte de représailles de la part du voleur. Cependant, comme nous le verrons plus loin, selon l'opinion de Ravuna, même si l'acte de vente n'est pas une preuve suffisante que le voleur a acheté le terrain, ou bien dans le cas enseigné dans Maseret Gittin que l'acheteur a réellement acheté le terrain du propriétaire, mais dans le cas où des témoins ont vu qu'il a payé de l'argent pour acheter le terrain, dans ce cas, le voleur aura acquis le terrain. Et cela parce que, comme nous le verrons, l'opinion de Ravuna est que même une vente sous contrainte est aussi valable. Rav Bibi Mesayemba Mishme de Rav Nachman. Rav Bibi conclut cet enseignement au nom de Rav Nachman, mais en fait, comme nous le verrons, il est en désaccord avec l'opinion de Ravuna. Karka Enlo, si le voleur d'un terrain prouve qu'il a acheté par la suite le terrain du propriétaire, il ne pourra pas garder ce terrain parce que cette vente n'est pas valable. Aval Ma'ot Yeshlo, mais l'argent qu'il a payé pour acheter ce terrain lui revient. C'est-à-dire, Rav Bibi pense qu'une vente sous contrainte n'est pas valable. Donc même s'il prouve par des témoins qu'il a payé ce terrain, quand même, la vente n'est pas valable, il devra restituer les terrains. Cependant, le propriétaire lui rendra l'argent qu'il a payé. Bamedvarim Amourim, quand ces choses sont dites, que le propriétaire lui rendra l'argent, Shamru Edim, dans le cas où des témoins viennent dire, Befanenu Manalo, devant nous, ce voleur a compté l'argent pour payer le propriétaire. Aval Amru Edim, mais si des témoins ont dit, Befanenu Hodalo, devant nous, le propriétaire a avoué qu'il a vendu ce terrain au voleur, l'eau, dans ce cas, le propriétaire n'aura pas l'obligation de rendre l'argent au voleur. Et cela, que des Rav Kahana, comme l'a dit Rav Kahana. Nous lisons ici, selon le Bar, d'Amar Rav Kahana, ce que Rav Kahana a dit à propos d'une situation similaire. Il a de Odele, si le propriétaire n'avait pas avoué au voleur qui lui a vendu le terrain, par exemple, Hava Mamtele, Ledideh ou le Khamre, le Shahva, il l'aurait amené lui et son âne aux autorités. Autrement dit, le fait que le propriétaire a avoué qu'il a vendu ce terrain au voleur n'est pas une preuve qu'il le lui a réellement vendu, parce que nous estimons qu'il lui a avoué qu'il lui a vendu ce terrain parce qu'il avait peur de lui. Par conséquent, ce voleur devra restituer le terrain, mais le propriétaire ne lui rendra pas d'argent. Nous avons fini ici le shiur de Bava Batra Daf Mem Zayin. Nous commençons le shiur de Bava Batra Daf Mem Chet. Nous commençons Daf Mem Zayin Amud Bet à la cinquième ligne du bas de la page. Amar Avuna Talyuhu, une personne qu'on a pendue ou qu'on a contraint de toute autre manière à vendre un objet ou un terrain, Vezavin, et il l'a vendu, Zvine et Zvine, sa vente est valable. Maïtahama, pourquoi? Ravuna explique, Kol de Mazbin Inish, toute chose qu'une personne vend, il lave de Anis, si ce n'était qu'il était contraint parce qu'il avait besoin d'argent, Lohava Mazbin, il ne l'aurait pas vendu. Veafilu Achi, et bien que ce soit ainsi, Zvine et Zvine, sa vente est valable, parce que la Torah ne fait pas de différence entre la vente d'un objet que le vendeur a besoin et la vente d'un objet que le vendeur n'a pas besoin. Nous pourrons donc en conclure qu'une fois que le vendeur a reçu la contre-valeur de la marchandise, bien que la vente a été sous contrainte, la vente sera valable, parce que nous estimons que finalement il a quand même accepté de vendre cet objet. Si c'est ainsi, même lorsqu'il a été contraint par une autre personne de vendre un objet, la vente sera aussi valable. La Gemara demande, Vedilma Shani Unsa de Nafshe, peut-être qu'il y a une différence entre le cas où le vendeur s'est lui-même contraint de vendre un objet parce qu'il avait besoin d'argent, mais Unsa Beacharine, et le cas où le vendeur a été contraint par une autre personne. Peut-être que dans ce dernier cas, le vendeur n'a pas accepté de vendre l'objet. On ne peut donc rien déduire du fait qu'en général, le vendeur est contraint de vendre parce qu'il a besoin d'argent. La Gemara répond, et là, Kedetania. Plutôt, nous dirons que nous l'apprenons d'une braïta.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.